Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Célier, bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, c'est parti pour RTL Soir. Bienvenue pour deux heures d'infos tous ensemble avec ce soir à la une des témoignages bouleversants. Tout d'abord, vous allez entendre les mots poignants de la maman d'Alexandre Martin, ce jeune soldat, ce brigadier tombé samedi dernier au Mali. Et puis RTL continue de s'intéresser à la face cachée de nos EHPAD. Nos aînés sont-ils maltraités ? Sur notre antenne, un journaliste, mais aussi la fille d'une résidente, accuse le leader mondial Orpea des témoignages édifiants, précis. On va en discuter avec vous au 3210 et avec Laurent Berger, le leader de la CFDT, notre invité de 18h15. Les autres titres de l'actualité à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le Covid et les crèches. Enquête RTL sur la situation dans ces structures municipales. Certains chiffres frappants. À Nantes, un quart des enfants sont à la maison en ce moment. À Bordeaux, plus de 10% du personnel absent. Dans ce journal aussi, la confirmation du gouvernement face à la hausse des prix des carburants. Le barème de l'indemnité kilométrique va être relevé de 10% au 1er février. Et puis, l'admirable état d'esprit de Gaël Monfils, éliminé en quart de finale à l'Open d'Australie. Lucidité et espoir. Malgré tout, je sens, dit-il, que je vais y arriver. Les courses dans le Quintet Plus à Cagnes-sur-Mer, il fallait jouer le 12, le 6, le 2, l'As et le 4.
Après 18h30, dans les dessous de l'actu, les dessous des négociations avec les talibans en ce moment, face à face, le Premier ministre norvégien et le chef de guerre qui a failli le tuer il y a quelques années. À 18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signy et son équipe de curieux. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme ?
Comment sont surveillés les patients les plus dangereux ? Après plusieurs évasions dans les hôpitaux psychiatriques, on défait le monde à mener l'enquête. Au menu également, vous saurez pourquoi Bob Dylan s'appelle Bob Dylan et pourquoi le prix de votre jus d'orange va augmenter. Bah oui, c'est comme l'essence, ça augmente.
Effectivement, tout augmente. À 19h15, Éric Brunet nous rejoindra et on prendra position autour de lui. On refera le monde, on refera notamment les EHPAD et puis des points météo tout au long de l'émission. Avec vous, cher Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Demain encore beaucoup de grisaille le matin, mais ça va plus ou moins se dissiper en journée.
Détail à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Célier, Marion Calais.
Et donc d'abord, la douleur, mais aussi la fierté d'une maman. Pour la première fois, la mère du jeune brigadier Alexandre Martin, mort ce week-end au Mali, a pris la parole. C'était dans RTL Midi.
Témoignage bouleversant de Valérie Follin, cette maman qui s'apprêtait à marier son fils, à le retrouver fin février. Elle a raconté à Amandine Bégaud sa vie dévastée et ses projets anéantis.
C'était un héros. Il a fait ce métier par passion. Enfin, c'était sa vie, l'armée était sa vie. Il a fait son choix de vie. Mon fils était très carré dans sa vie. Il fallait pas un caillou dans le roulement avec Alexandre.
Il était malgré tout, j'imagine, conscient des risques.
Il était très conscient, mais il disait toujours « Maman, t'inquiète pas, de toute façon, c'est ma vie et tu m'empêcheras jamais. »
Votre dernier échange, il remonte à
une heure avant qu'il soit... Une heure avant son décès. Il devait se marier l'année prochaine. On devait aller dans le sud. Tout était organisé. On avait même acheté le champagne. Je devais acheter un appartement dans le sud pour être près de lui à ma retraite. Ma vie est bousculée. Je n'achèterai pas cet appartement. Voilà.
Alexandre est le 53e soldat français tué depuis l'engagement de la France au Sahel. C'est un combat utile, d'après vous ?
Pour moi, je pense que non. Ça envoyait l'armée au casse-pipe, quoi. Et là, j'avais qu'une hâte que ça s'arrête, parce que j'étais pas très bien dans ma tête, en fait.
Vous aviez hâte qu'il rentre ?
Ah oui, oui.
Une vie bousculée et les larmes de cette maman, la maman du brigadier Alexandre Martin, 53e militaire français mort au Sahel. Elle était l'invité d'Amandine Bégaud dans RTL Midi.
RTL Soir.
18h04 et gros plan maintenant sur l'accueil des tout-petits à l'heure du Covid. Comme à l'école, de nombreuses crèches et donc de nombreux parents se retrouvent en ce moment en difficulté.
Oui, mais contrairement à l'école, pas de chiffre national des fermetures ou des contaminations. Alors, vous avez appelé un certain nombre de communes pour faire un état des lieux. Guillemette Franquet, bonsoir.
Bonsoir.
Résultat à Nantes, par exemple, il y a ce chiffre marquant, à cause du Covid, un enfant sur quatre aujourd'hui n'est pas accueilli en crèche.
Oui, hein, sur la petite dizaine de mairies que j'ai interrogé, Nantes est la plus touchée. À Bordeaux également, la situation est tendue. Un enfant sur cinq doit rester à la maison. La municipalité bordelaise estime d'ailleurs que 80% des enfants ont été touchés par des perturbations liées au Covid depuis le début de l'année. D'autres villes sont plus épargnées. À Paris, 5% des enfants ne peuvent pas aller à la crèche cette semaine. Ils sont 6% à Strasbourg, 8% à Pau. À Rennes, un peu plus d'un enfant sur 10 doit rester à la maison.
Et encore une fois, comme à l'école, votre enquête RTL le montre, Guillemette, il n'y a pas que les enfants qui sont absents, il y a aussi les encadrants.
Oui, à Bordeaux, 12% des agents qui travaillent auprès des enfants sont absents. Alors, une des solutions mises en place, par exemple à Bordeaux ou à Pau, réduire les amplitudes horaires pour éviter de fermer des sections, des groupes d'enfants. Les agents sont répartis pour qu'il y ait tout le temps le nombre minimum d'encadrants requis. À Paris, on s'arrange pour que les crèches ne ferment pas complètement leurs portes et continuer à accueillir un nombre minimum d'enfants.
L'enquête RTL de Guillemette Franquet.
Les enfants, par ailleurs, encore très faiblement vaccinés. Les créneaux se sont ouverts pour eux il y a un mois et aujourd'hui, à peine 4% des 5-11 ans ont reçu une injection.
À titre de comparaison, la moitié des petits Canadiens, Espagnols, Portugais sont déjà vaccinés. Donc Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, le reconnaît, ce n'est pas un grand succès. Il s'inquiète surtout pour les plus fragiles. Ils sont seulement 9000, ces enfants fragiles, à avoir reçu une dose sur 350 000.
Il est absolument indispensable que ces enfants soient vaccinés rapidement parce qu'ils ont un risque qui n'est pas négligeable de forme de la maladie qui les conduit à l'hôpital, même avec l'Omicron. On sait que la vaccination des enfants, je parle d'enfants bien portants, les protège à 50% contre l'infection. On sait que c'est plus contre les formes plus graves. Cette vaccination est justifiée parce qu'elle est efficace et par ailleurs elle est tout à fait sûre. J'en connais particulièrement dans mon domaine d'expertise qui est celui des enfants immunodéprimés. Il est bien clair que la vaccination n'entraîne absolument pas de poussée de leurs maladies, par exemple auto-immunes, inflammatoires, cancéreuses ou respiratoires, asthmatiques, etc. Les familles peuvent être tout à fait rassurées sur ce point également.
Alain Fischer avec Odile Pouget pour RTL.
Et pour accélérer peut-être un peu plus la vaccination des enfants, retour à l'ancienne règle, il ne faut plus l'accord des deux parents. Celui d'un des deux suffit à nouveau.
Des biscottes et des couches rationnées, du personnel en nombre insuffisant. Les révélations sur les pratiques du leader mondial des EHPAD, Orpea, se sont invitées aujourd'hui à l'Assemblée.
Sur RTL ce matin, l'auteur de ce livre enquête, Victor Castanet, a pointé des dysfonctionnements sur l'alimentation ou les produits de santé. Cet après-midi, face aux députés, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré avoir demandé des comptes au groupe, demandant même, se disant même prêt à ouvrir des investigations si les éléments remontés préconisaient.
Et le groupe Orpea qui, dès ce matin sur RTL, lui a réfuté tout dysfonctionnement systémique par la voix de son directeur général Yves Leman.
On a toujours placé le bien-être des résidents avant tout autre aspect. Il peut y avoir ponctuellement des périodes où on puisse avoir des imperfections, mais notre engagement, c'est d'y remédier dans les plus brefs délais. C'est plutôt des dysfonctionnements d'organisation. Jamais chez Orpea, nous avons rationné quoi que ce soit. C'est totalement faux. Aucune rationalisation, tous les besoins sont donnés. 95% des gens considèrent que nous effectuons notre métier très correctement.
Yves Leman, le directeur général du groupe Orpea, joint par Nathan Bocard pour RTL.
Et on va en discuter dans un instant avec vous au 3210. Vous réentendrez aussi la fille de l'écrivaine Françoise Dorin, décédée dans une de ses maisons de retraite. Votre journal se poursuit dans un instant avec le coup de pouce confirmé du gouvernement face à la hausse des prix des carburants. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal sur RTL. Et donc, c'est confirmé. Le gouvernement va aider les plus gros rouleurs face à la hausse des prix des carburants.
Relèvement de 10% du barème kilométrique. Ça concerne 2,5 millions de personnes qui déclarent leurs frais professionnels. Comme cette infirmière que vous avez suivie, Sébastien Rouxel, infirmière libérale de Trappes dans les Yvelines. Et elle a déjà fait ses comptes.
Oui, c'est forcément à bord de sa Clio rouge que je retrouve Laetitia, 42 ans, en déplacement entre deux patients.
On roule 30 000 km à l'année. Je passe ma vie en voiture.
Grâce à la revalorisation de l'indemnité kilométrique, elle va économiser 3 640 euros d'impôts cette année. C'est 330 euros de plus que l'an passé.
C'est loin d'être négligeable. On doit continuer à travailler, on doit continuer à prendre soin de nos patients et sans nos voitures. On ne peut pas avancer. On peut pas. Ils avaient beaucoup nous aider même. C'est une très 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 bonne nouvelle.
Cette somme, elle va lui permettre de compenser un peu la flambée des prix de l'essence qui commence sérieusement à peser sur sur son budget. Je l'ai constaté de mes propres yeux en l'accompagnant faire un plein comme elle le fait tous les 4-5 jours. Ça vous fait combien le plein ?
60-70 euros.
Et il y a un mois, par exemple, vous avez une idée combien ça vous coûtait ?
Je pense que c'était à moins de 50 euros.
Et si elle a tenu ces dernières semaines, elle m'assure que certains de ses collègues ont décidé de jeter l'éponge et quitter la profession.
Le reportage à Trappes de Sébastien Rouxel pour RTL. La condamnation en Iran du français Benjamin Brière à 8 ans de prison pour espionnage et propagande. Il a déjà passé plus d'un an en détention. Condamnation inacceptable pour Paris. Il a combattu, mais il a fini par plier. Gaël Monfils, éliminé cet après-midi en quart de finale de l'Open d'Australie.
Oui, défaite au bout d'un match haletant en 5-7 face à l'Italien Berrettini. Pour autant, notre français garde encore de l'espoir.
À l'arrivée, encore une fois, je suis moins forte. Il m'a éclaté au cinquième et c'est tout, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'excuse. Pourtant, je suis bien, hein, mais j'ai été moins fort encore une fois. Et je le suis depuis, ça fait quoi, 18 ans que je suis là. Je suis moins fort là. Et je dirais même pas que j'apprends, j'encaisse. Mais je sens qu'une fois, je vais y arriver, j'espère, quoi. Enfin, du moins, c'est ma volonté. Peut-être que j'y arriverai jamais. Et au moins, j'aurais essayé. C'est mon kiff, c'est mon challenge, c'est mon challenge personnel. C'est sûr, je gagnerai plus 20 grands chelems. On en veut un. J'espère y arriver. Une fois que ça passe et c'est tout, quoi.
Voilà, que bah ça passe
aussi,
une fois, mais nous aussi,
de préférence.
On l'espère. Et puis, dernier espoir français, pour le coup, à Melbourne, Alizé Cornet, qui la nuit prochaine affrontera l'américaine Danielle Collins en quart de finale.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Alors, si ça vous tente, peut-être pourriez-vous tenter de travailler dans une citadelle inscrite au patrimoine de l'UNESCO ou dans un château construit et habité par François Ier, parce que le Centre des Monuments Nationaux veut ouvrir ses sites historiques à de nouvelles activités, notamment le château de Villers-Cotterêts ou celui de Châteaudun, pour qu'ils deviennent des tiers-lieux, des espaces accueillant des activités culturelles, mais aussi associatives ou des espaces de coworking.
Vous voulez travailler dans un château, Marion ?
Oh, pourquoi
le
pas,
studio,
un vieux château J'aime bien l'ancien.
Ouais, je sais, vous nous supportez plus en fait, c'est ça la vérité. Merci Marion, on se retrouve quand même tout à l'heure si vous le voulez bien. Et on va s'intéresser au temps maintenant avec vous, Peggy. Qu'est-ce qu'il a fait froid aujourd'hui et moche dans la partie nord et ce sera encore le cas demain.
Exactement, vous avez tout compris. Pour parler des températures, encore beaucoup de gelée demain, donc on se couvre bien. Et bah, les températures ne vont pas beaucoup grimper là où la grisaille va rester, c'est-à-dire essentiellement au nord et dans le sud-ouest. Et alors là où elle va normalement se dissiper un peu plus, ce sera entre la Bretagne et la Bourgogne et dans la vallée du sud-ouest et sinon partout ailleurs entre le sud-est et la montagne. Là, il fera très beau, mais tous au nord, vous avez compris, en Ile-de-France, vers la Normandie, les Hauts-de-France, là, on oublie le soleil. Les températures, donc, 2 à Orléans, 5 à Lyon, 6 à Lille et Paris, 11 à Biarritz, 13 à Toulon et jusqu'à 16 à Perpignan.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL et ce soir, la brigade RTL, c'est vous. On va échanger ensemble au 3210 sur ce scandale dans les EHPAD. Orpea a perdu 18% environ en bourse. Aujourd'hui, c'est l'un des leaders mondiaux des maisons de retraite et ce géant est confronté à des révélations chocs sur RTL. Ce matin, Victor Castanet est notre invité. Ce journaliste a enquêté pendant 3 ans sur ce groupe. Il sort un livre, Les Fossoyeurs, et ces révélations vraiment interpellent. Rationnement des couches, de l'alimentation, des produits de santé. Dans ce livre, le journaliste raconte aussi la fin de vie de l'écrivaine, la romancière Françoise Dorin, décédée en 3 mois dans une de ses maisons de retraite Orpea à cause d'une escarre qui a dégénéré. Sa fille était l'invitée de RTL à la mi-journée. Écoutez-la.
On n'a pas parlé du tout de cette escarre. Donc, elle dormait de plus en plus et je pense qu'on la bourrait de calmants pour qu'elle souffre moins. Jusqu'au jour où on m'a appelé pour un examen plus approfondi dans un hôpital. Et là, j'ai découvert un trou béant de la taille de mon poing. Et elle souffrait horriblement et le choc septique est venu 5 jours ou 6 jours après.
Un témoignage de la fille de Françoise Dorin dans RTL Midi. Depuis ce matin, vous êtes très nombreux à nous appeler au 3210. Alors nous avons sélectionné ce soir l'appel de Bernadette. Bonsoir Bernadette.
Bonsoir Julien, merci de m'écouter.
Vous êtes directrice d'EHPAD justement en région parisienne. Il y a quelques années, Orpea a racheté un établissement où vous étiez en fonction et vous avez été mise à la porte, je crois, racontez-nous.
Alors,
Alors oui, en effet, c'était un groupe de deux EHPAD qui possédait un cardiologue. Et ces deux EHPAD ont été rachetés. On était dans les Hauts-de-Seine. Et finalement, Orpea a une pratique assez intéressante. C'est que lorsqu'ils rachètent des EHPAD, ils mettent à la tête des professionnels qui n'ont pas les diplômes qu'il faudrait pour être directeur d'EHPAD. Donc la personne qui m'a remplacée, c'était un infirmier sans avoir le diplôme de Master 2, donc pour être directeur d'EHPAD.
Mais alors, est-ce que vous avez constaté à ce moment-là, quelque part, la logique de profit que le livre enquête révèle ?
Alors, je le connaissais déjà bien avant, hein, puisque j'étais directrice d'EHPAD du côté de Courbevoie et j'ai vu se construire l'EHPAD des bords du Seine.
Le fameux EHPAD où est décédée Françoise Dorin et qui est pointée du doigt dans ce livre.
Oui, et je l'ai visité.
Et alors ?
Bah, écoutez, Orpea a une pratique assez particulière, c'est que la plupart du temps, en effet, il y a une vitrine hôtellerie très forte, très intéressante. En revanche, le personnel, j'en ai beaucoup, hein, qui étaient partis travailler chez eux sur les berges Seine et qui sont revenus nous racontant tout ce qui se passait dans les décors.
Mais c'est-à-dire le rationnement des couches,
rationnement
de l'alimentation, des produits de santé, ça c'est une réalité.
Parce que pour les adultes, couches, c'est pas top, c'est plutôt des protections. En effet, une alimentation, alors soi-disant l'alimentation était extraordinaire, mais l'hygiène dans les cuisines n'était pas extraordinaire, puisque un des établissements a été fermé parce qu'il y avait des problèmes sanitaires. Il y avait aussi en effet un rationnement, mais surtout au niveau de l'humain. Très peu de professionnels pour un plus grand nombre de résidents. C'est-à-dire qu'ils avaient un professionnel devait effectuer des soins de nursing auprès de 12 à 15 résidents par jour.
Donc aujourd'hui, vous ne regrettez pas, quelque part, d'avoir été viré par Orpea, j'imagine ?
Je ne regrette pas de n'avoir pas travaillé pour eux, mais je regrette d'avoir été viré sur des motifs irrationnels, je dirais.
Merci Bernadette, en tout cas, d'avoir témoigné ce soir. Vous, la directrice d'EHPAD dans les Hauts-de-Seine, ça ne vous étonne pas, vous dites soir sur ce scandale des EHPAD, des maisons de retraite Orpea. Merci d'avoir témoigné ce soir au 3210. Une petite pause et puis ensuite sur RTL, notre invité sera Laurent Berger. C'est le leader de la CFDT. Il va réagir justement à ces révélations et puis il va aussi pousser un coup de gueule sur le pouvoir d'achat. Les candidats n'en parlent pas assez, dit-il. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Vous écoutez RTL, RTL Soir toujours à vos côtés, 18h21, et notre invité maintenant est le secrétaire général de la CFDT. Bonsoir Laurent Berger.
Bonsoir.
Alors vous, le syndicaliste, vous poussez un coup de gueule à 3 mois de l'élection. Vous voulez que le pouvoir d'achat soit au cœur de la campagne. On va y revenir, mais juste avant, parce que c'est l'actu du jour, vous venez d'entendre ces témoignages, ces accusations dérangeantes sur ce scandale des maisons de retraite Orpea. La CFDT représente notamment des salariés d'EHPAD. Ces accusations de mauvais traitement, est-ce qu'elles vous étonnent ou vous n'êtes pas surpris ?
Ah bah écoutez, ce qui sort aujourd'hui dans ce livre, c'est terrifiant, c'est plus qu'étonnant, c'est terrifiant, avec des témoignages très durs d'un des acteurs des EHPAD, c'est un des acteurs. Et donc si la situation est celle qui est décrite dans ce livre, j'ai pas de raison d'en douter, c'est un pur scandale. C'est un pur scandale à l'égard d'abord des usagers, des personnes âgées, puis à l'égard également de leurs familles et évidemment des personnels. Ça pose plusieurs questions. Ça pose d'abord la question de l'utilisation de l'argent public. C'est pour quel service, avec quelle contrepartie et quel contrôle des autorités de tutelle, parce que ce sont des établissements qui sont sous tutelle quand même.
Vous demandez au gouvernement de faire la lumière sur ces pratiques, parce qu'il annonce une enquête, mais par exemple la ministre Brigitte Bourguignon a refusé notre invitation ce soir en attente, dit-elle, d'autres éléments.
Oui, c'est de la prudence, je peux le comprendre. Lancer une enquête, c'est absolument nécessaire. Après, Orpea, il est aussi connu pour ne pas être le groupe le plus vertueux en termes de conditions de travail et de rémunération, ce qui va assez concordant avec le témoignage du livre Les Fossoyeurs. Mais moi, ce que je souhaite, c'est deux choses. C'est d'abord condamner fermement. Et puis alerter sur deux points. Ne pas faire de généralité avec l'ensemble du secteur, C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que tout le monde croit que c'est la généralité dans tous les groupes qui gèrent des EHPAD ou dans tous les EHPAD, quels que soient ceux qui les gèrent. Et puis, il ne faut pas stigmatiser les professionnels qui font, malheureusement, avec les moyens qu'on leur donne.
Mais sur ce sujet...
Mais c'est clair qu'il faut dénoncer, il faut contrôler, il faut sanctionner si c'est avéré. Et il faut s'interroger aujourd'hui sur la politique qu'on souhaite à l'égard de la perte d'autonomie.
Emmanuel Macron avait promis une loi grand âge, un grand projet sur la dépendance. Le chantier est enterré. On sait que la promesse ne sera pas tenue avant la fin du quinquennat. Vous le regrettez ?
Oui, je le regrette. J'ai eu l'occasion de le dire. Là, je veux quand même distinguer deux choses. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas cette loi sur l'autonomie que ça justifie ses comportements. Parce que ce dont on parle, c'est des établissements avec le groupe Orpea où les loyers sont... Enfin, les frais sont extrêmement élevés. Ce que les familles doivent payer est extrêmement élevé. Donc, ce n'est pas une question que de moyens. Mais c'est sûr que je regrette qu'il n'y ait pas cette loi perte d'autonomie avant la fin du quinquennat. C'était le cas, d'ailleurs, dans les quinquennats précédents. On n'a pas toujours été au bout, même s'il y a eu des avancées avec la loi Delaunay, parce qu'on a besoin aujourd'hui de s'interroger. C'est un problème qui est devant nous. C'est une bombe à retardement, le vieillissement de la population et la perte d'autonomie qui est devant nous. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dise quelle politique on veut mener et quel financement on veut lui attribuer.
Venons-en
et
maintenant.
C'est absolument nécessaire de faire cet effort.
Venons-en maintenant à votre coup de gueule, parce que la CFDT tape du poing sur la table et appelle les candidats à 3 mois de l'élection maintenant à se saisir de la question du pouvoir d'achat. Vous trouvez que c'est absent de la campagne ? À gauche, on parle d'augmentation du SMIC, baisse de la TVA sur l'essence chez Anne Hidalgo et Marine Le Pen, baisse des charges sociales sur les bas salaires chez Valérie Pécresse. Ça existe quand même dans les propositions des candidats ?
Oui. Moi, j'ai réagi. Je pousse un coup de gueule sur le fait que y a un problème pouvoir d'achat et niveau de salaire dans un certain nombre de secteurs professionnels et d'entreprises aujourd'hui. Et c'est d'abord ça mon coup de gueule. Et après, c'est le constat que dans les élections présidentielles, mais c'est presque un sujet secondaire par rapport au premier coup de gueule, il n'est pas suffisamment traité. Il est traité, mais il est traité peut-être pas dans l'entièreté de la façon dont il faudrait
sur
le faire.
Sur le premier coup de gueule, vous dites, dans de nombreuses branches, on entre smicard, on part à la retraite smicard.
Mais bien sûr, le service à la personne, le premier niveau est au SMIC. Le dernier niveau est à 22 centimes au-dessus du SMIC. Donc on rentre SMICard, on finit SMICard. On vient de signer un accord, et je m'en réjouis, dans la branche volaille. Mais avant cet accord, il y avait 12 niveaux en dessous du SMIC. Ça veut dire qu'à minima, vous étiez 12, 13 ans, 15 ans au SMIC, quelle que soit la reconnaissance de vos compétences ou de vos responsabilités. Donc, vous voyez bien, on a besoin aujourd'hui d'une revalorisation des salaires dans tous ceux qui ont été les travailleurs essentiels dont on a eu tellement besoin depuis mars 2020, à qui on a promis des revalorisations de salaires et qui n'arrivent pas toujours. Donc, nous, on se bat dans les branches professionnelles. Il y a encore beaucoup de travail qui est mené aujourd'hui. On va organiser une marche des travailleurs essentiels dans des branches professionnelles telles que la distribution, les services à la personne, la propreté ou la sécurité.
En dehors de la journée de grève de jeudi qui est menée par d'autres syndicats, je le précise.
Oui, mais j'ai pas à commenter ce que font d'autres. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, je pense que là, maintenant, il faut obtenir des revalorisations salariales dans les entreprises, dans les branches professionnelles. C'est ce que font nos équipes. Donc, il y a des mobilisations qui sont prévues dans différentes entreprises, notamment, et pas que des entreprises d'ailleurs du privé pur. Il y a un mouvement à Pôle emploi qui est prévu pour le 1er février. Il y a une montée aujourd'hui des revendications salariales. C'est juste ces revendications, tout simplement parce qu'il y a besoin de s'interroger aujourd'hui sur le partage de la richesse créée dans les entreprises.
Sur cette question du pouvoir d'achat, Laurent Berger, aujourd'hui le gouvernement a annoncé vouloir revoir le barème des indemnités kilométriques, plus 10%, ça concerne les gros rouleurs, notamment les professions libérales, 2,5 millions de personnes. Vous saluez ce geste ?
Je pense qu'il va falloir des gestes pour tous ces travailleurs et travailleuses qui ont objectivement des frais pour se rendre au travail. Alors, il faut privilégier au maximum les transports collectifs, mais on sait tous que beaucoup de salariés sont obligés aujourd'hui d'avoir leur véhicule personnel. Donc là, il va falloir des aides ciblées, mais la CFDT, elle a souvent privilégié l'idée de faire un chèque carburant dans des moments où il y a des hausses qui sont très importantes. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier que le pouvoir d'achat, c'est évidemment ce qu'on dépense. Il faut des aides ciblées, et là aussi, aux ménages les plus modestes. Mais c'est aussi ce qu'on gagne. Et ce qu'on gagne, ça dépend beaucoup des entreprises. Et c'est aussi les entreprises qui doivent prendre leurs responsabilités dans ce sujet.
Merci Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Petite pause, et ensuite RTL Soir va se poursuivre avec les dessous de l'actu. Les talibans négocient en Norvège. Alors, face à face, complètement dingue. Le premier ministre local se retrouve face à l'homme qui a tenté de le tuer il y a quelques années. Et puis laissez-vous tenter dernière aussi quand la politique débarque au cinéma, tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier.
Bonne fin de journée, 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
On vous rappelle les grands titres de l'actualité avec Marion Calais.
La France et l'Allemagne main dans la main dans le dossier ukrainien. Après une rencontre avec le chancelier allemand, Emmanuel Macron évoque ce soir une très grande unité pour appeler à la désescalade. Au Royaume-Uni, enquête ouverte par la police en Angleterre sur les fêtes de Boris Johnson et notamment la dernière révélée hier sur cet anniversaire célébré en plein confinement il y a 2 ans. Après l'élimination de Gaël Monfils, Alizé Cornet, dernier espoir français en Australie à l'Open d'Australie, elle disputera son quart de finale la nuit prochaine contre l'américaine Danielle Collins.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps Peggy pour demain.
Encore beaucoup de grisailles demain matin sur la moitié nord et dans le sud-ouest, du soleil toujours en montagne et dans la moitié sud, tout ça va se dissiper légèrement, peut-être entre la Bretagne et la Bourgogne et dans la vallée de la Garonne, sinon au nord, eh bien, ça restera très gris avec des températures beaucoup de gelées et des maximales entre 2 et 7 degrés sous la grisaille, 11 à 16 sous le soleil.
Merci Peggy.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous des négociations avec les talibans. Les islamistes afghans sont en ce moment en Norvège, dernier jour de tractation. Ils veulent de l'argent. Les occidentaux réclament en échange le respect notamment des droits des femmes. Émilie Beaujard, bonsoir.
Bonsoir.
On va surtout commencer par cette anecdote complètement folle au cœur des discussions. Ce face-à-face, d'un côté il y a le premier ministre norvégien, et de l'autre, l'homme qui a failli le tuer.
Et oui, parce que dans cette délégation de 15 talibans, il y a un homme recherché pour crime de guerre, Anas Haqqani, du clan du même nom et proche d'Al-Qaïda. Une famille qui a perpétré de nombreux attentats en Afghanistan, et notamment celui de 2008 contre des Occidentaux. C'était à l'hôtel Serena de Kaboul. Un attentat qui a fait 7 morts. Et parmi les survivants, le Premier ministre norvégien, ce même Premier ministre qui reçoit aujourd'hui cette délégation de talibans, Jonas Stoltenberg, assure que le nom d'Anas Haqqani est apparu alors que la délégation était déjà arrivée à Oslo, donc trop tard pour lui interdire l'accès au pays.
Revenons au fond, elles se déroulent comment ces négociations ?
Eh bien les talibans font face à des représentants de l'ONU et de l'Union européenne, ils font plutôt le dos rond car ils espèrent que la communauté internationale débloque tous les fonds actuellement gelés et il y a urgence. L'ONU estime que 55% de la population afghane risque de mourir de faim et qu'il faudrait plus de 4 milliards de dollars pour aider le pays, une somme considérable. Pour cela, les pays occidentaux demandent donc des contreparties, comme le respect des droits des femmes. Mais on voit mal les talibans accepter de telles demandes, alors que depuis leur prise de pouvoir le 15 août dernier, les jeunes filles ne peuvent plus étudier ni travailler. Les militantes sont traquées, arrêtées. Il y a encore quelques jours, plusieurs femmes militantes et juges ont été kidnappées dans le nord du pays alors qu'elles s'étaient cachées en attendant de prendre un vol pour quitter l'Afghanistan. Personne n'a eu de leurs nouvelles depuis.
Les dessous des négociations avec les talibans en ce moment en Norvège. Merci Émilie Beaujard.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, un peu de sourire, un peu de respiration comme chaque soir, c'est laissez-vous tenter dernière. Et une fois n'est pas coutume, nous allons parler politique, là, maintenant, dans ce rendez-vous avec Stéphane Boutsock, notre monsieur cinéma. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à tous.
Nous sommes à 88 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et tiens, deux films sortent demain au cinéma avec pour sujet des élections.
Bon, c'est sans doute pas un hasard.
Non.
Le premier s'appelle Les Promesses, réalisé par Thomas Kruithof, Isabelle Huppert. Il y a une mère de banlieue arrivée au terme de son second mandat, elle veut passer la main, mais après avoir fait valider par l'État un plan de rénovation d'un quartier délabré, on va lui proposer un poste de ministre et elle entend profiter de l'occasion pour obtenir gain de cause, quitte à laisser planer l'idée d'un troisième mandat. Film passionnant sur le dessous de la politique, les manœuvres qui souvent échappent aux citoyens, mais surtout sur l'engagement au quotidien de ces maires. C'est une sorte de thriller social vraiment intéressant.
Alors voilà pour Les Promesses avec Isabelle Huppert. L'autre film s'appelle lui tout simplement Municipal.
Et il est signé Thomas Polo. On est entre le documentaire et la fiction. À Revin, petite ville ouvrière sinistrée des Ardennes, département que je salue, que je connais bien, nous voici à la veille des élections. Un nouveau candidat débarque en ville. Il n'a pas de programme, il ne souhaite pas être élu, et pour cause, c'est un comédien.
Si je suis élu, moi je disparais. Parce que mon contrat se termine à la fin de l'élection. Donc l'idée, c'est de mettre au pouvoir quelqu'un qui, de toute façon, devra s'en aller. S'il est élu. Et à partir de ce vide, comment s'organiser ? Il y a un climat assez exceptionnel au moment des élections, sur comment la population s'empare de la parole publique, remettent en jeu, espèrent. L'idée serait de faire perdurer le plus longtemps possible cette effervescence et pas de fermer les choses avec un programme.
Alors, thème de réflexion du film, brasser des idées, lancer des débats, n'est-ce pas au fond ce qui fait le plus avancer la démocratie à un moment où on s'insulte plus qu'on ne se cause. Sujet quasi philosophique, passionnant au cœur donc de Municipal, dès demain aussi
mais
au cinéma.
Les films politiques, ça fonctionne en France, hein ?
En un mot ? Non, ou alors très moyennement. Président d'Anne Fontaine l'an passé avec Dujardin et Gadebois qui imaginaient l'alliance improbable entre Sarkozy et Hollande a terminé autour des 430 000 entrées. Ouais, si on veut trouver un succès, il faut remonter à 2013. Quai d'Orsay de Bertrand Taverny, rappelez-vous, ça s'inspirait des années Villepin au ministère des Affaires étrangères. 900 000 entrées. En fait, là où chez les anglo-saxons, le film politique est un genre en soi, eh ben chez nous, c'est quasiment toujours par la comédie qu'on l'aborde. Ça en dit peut-être beaucoup sur la manière dont les spectateurs électeurs considèrent leurs représentants.
Effectivement, merci beaucoup Stéphane Boutsock. Municipal, les promesses, allez donc les voir au cinéma. Dans un instant, on va défaire le monde dans RTL Soir avec la joyeuse bande qui chasse Stéphane et qui s'installe en
jamais,
studio.
Jamais, jamais on chasse
c'était
Stéphane,
bien,
c'était
c'est
brillant.
C'est un édito qu'il a fait Stéphane
toujours,
Boutsock.
Toujours, ouais. Stéphane Boutsock, éditorialiste politique bientôt sur RTL. Cyprien Sini, Laurent Tessier et Céline Landreau nous ont rejoints. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Dans un instant, on va défaire la sécurité des hôpitaux psychiatriques avec trois évasions.
Des hôpitaux même.
J'ai dit quoi? Des hôpitaux psychiatriques.
Ah, c'est là, on la garde. Pas pour accueillir.
Bêtisier de fin d'année.
Pardon, pardon Julien, mais là c'est sanction.
Vous pouvez pas passer là.
Des hôpitaux psychiatriques. Fantastique. Des hôpitaux psychiatriques, leur sécurité. Trois évasions, là, c'est moins rigolo. En deux jours, dont celle du fameux cannibale des Pyrénées. On va en discuter juste après ça, des hôpitaux.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.